Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. La série des podcasts avec un son horrible, on continue. Je suis encore dans des conditions qui sont moins adaptées pour une qualité audio favorable, mais je souhaite toujours et encore me tenir à ce rythme hebdomadaire. J'espère que vous appréciez, parce que j'avoue que c'est compliqué, c'est dur d'avoir quelque chose à dire toutes les semaines, et justement cette semaine on va partir dans un épisode freestyle encore, donc on est aussi dans la série freestyle. Dans laquelle cette fois j'ai même pas forcément de sujet seul à transmettre, mais que je vais plutôt faire un point sur où j'en suis. Donc pour celles et ceux qui aiment le podcast, pour apprendre et tirer des conclusions et avoir des conseils, c'est peut-être un épisode qui est moins fait pour vous. Là, on va juste faire un petit point d'étape, un peu plus journal de bord comme pour certains épisodes. Parce que j'ai pas forcément de contenu à vous apporter, pour la simple et bonne raison que bah c'est logique, hein, je l'avais prévenu, on n'a pas tout le temps des trucs à faire et à dire toutes les semaines. On a aussi des projets qui durent plusieurs semaines, et là c'est le cas, j'ai un rythme et des sujets et des projets qui durent plusieurs semaines. Je suis toujours sur ma scoping review pour ceux qui suivent. Donc j'ai pas spécialement de choses qui ont changé depuis la semaine dernière. Bien que je sois dans une phase de déplacement, donc je suis encore dans un nouvel endroit pour enregistrer, un nouvel endroit pour travailler, même dans un nouveau pays. Je suis actuellement à Barcelone. Et bah, ça me fait penser que le premier sujet, ça peut être que j'ai un petit coup difficile à appréhender et à développer, qui est celui que il se passe beaucoup de choses et c'est difficile à emmagasiner. Je pense que c'est un épisode et un point de vue qui pourrait ressembler au premier épisode de la saison 4. Ça fait beaucoup, je crois, ces derniers temps. Des voyages, des bons moments, beaucoup de bons moments. J'ai plus voyagé ces 3 derniers mois. Et puis là, si on finit le mois d'avril, il va encore y avoir un voyage. Donc les 4 premiers mois de 2025 vont être plus chargés en termes de voyage que les 7 à 10 dernières années. Voilà, c'est juste pour se rendre compte de à quel point ma vie a changé pour le bien. C'est pas que forcément des voyages payés depuis le que je gagne de l'argent grâce à mon activité. Mais voilà, il y a eu une ouverture sur des nouvelles expériences depuis le travail qui a été fait sur mon stress et sur la charge de travail que je me donnais. Et j'avoue que de enfin pouvoir lâcher prise, bah, ça m'a entraîné à me permettre de faire beaucoup plus de choses que je faisais avant, beaucoup plus sortir et voyager. Et bah, ça fait beaucoup, hein, de se dire que non, allez. Le premier voyage et le premier élan d'expérience nouvelle, c'était en novembre ou en décembre 2024. Donc on va dire depuis novembre, allez, ces 6 derniers mois, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses. Et je crois qu'il y a un petit coup, j'allais dire de down, mais enfin, c'est encore, j'allais dire, un problème de riche. La richesse, elle est dans les expériences aussi. Ça fait bizarre et on a un petit peu envie de revenir à la réalité de temps en temps. Et je pense que je vis une période qui est particulière et qui est très intéressante. Donc voilà, si je peux transmettre quelque chose, c'est plutôt le point de vue en interne de ce qui se passe. Je commence à embrasser un petit peu le sujet d'être digital nomade. Donc de travailler à droite à gauche dans des cafés, etc. Et donc j'ai des problématiques de digital nomade qui commencent à arriver. Bon, j'ai pas forcément envie d'embrasser ce style, Mais ce que je comprends, c'est que pour ceux qui sont intéressés par ce truc de voyager et travailler à droite à gauche, moi je le fais pas, je trouve pas que je le fasse énormément, hein, mais je commence à être amené à devoir travailler dans des cafés, etc. Et ben en fait, je pense que on peut avoir peur de ce rythme de vie et que beaucoup de choses peuvent nous amener à apprécier ce rythme de vie. Si on est préparé plutôt dans la logistique. Alors désolé, ça fait partie des podcasts dans lesquels je vais être le pas forcément clair parce que j'ai encore moins de notes, je suis même pas sûr de ce que je veux dire, donc je suis de plus en plus en roue libre sur les podcasts, donc là mes excuses si j'ai du mal à trouver mes mots et argumenter mes pensées, parce que même si j'ai pas de notes, des fois je prends du temps pour argumenter lier mes pensées, et pour le coup là c'est pas le cas. J'ai même pas réfléchi à comment je pourrais amener les trucs, donc voilà, ce sera un podcast qui aura cette saveur-là. Donc, ce que je me rends compte, c'est que moi qui pensais ne pas aimer du tout le style digital nomade, même si je pense que je suis loin de l'avoir totalement embrassé, hein, je suis pas parti pendant des semaines, des mois, etc. Mais bon, il y a quand même, j'ai libéré quelques barrières et quelques craintes de me dire, bah oui, en fait, je peux travailler où je veux et quand je veux. Et en fait, je crois que ça me plairait pas quand même comme fonctionnement, mais pas pour les raisons que je pensais, parce que en fait, il y a beaucoup de craintes que je pouvais avoir qui peuvent être lissées grâce à des décisions logistiques et stratégiques. Et c'est là où je vois que je suis face à des problèmes que peuvent avoir des digital nomades, c'est-à-dire, en fait, il me faut peut-être un nouveau casque parce que les gens m'entendent pas quand je suis en visio. Il me faut peut-être un nouveau sac parce que quand on prend les transports, etc., il me faudrait peut-être un sac où je puisse mettre tout. Et du coup, on pourrait largement faciliter la logistique pour que ce soit plus simple de travailler quand on veut, où on veut. Donc, si je peux vous transmettre quelque chose, c'est que on dit que les digital nomades peuvent utiliser leur PC à droite à gauche où ils veulent, quand ils veulent, et que c'est la liberté totale. Oui, mais de mon point de vue, c'est la liberté dans une cellule de organisation et de logistique. En tout cas, c'est ma manière de faire, surtout que moi j'ai plutôt besoin d'avoir du contrôle et quand même d'avoir un certain confort dans ma manière de travailler. Donc voilà, faut que je pense à ramener ce qu'il faut, mon casque, les bons dossiers, avoir de la connexion, etc. Et du coup, c'est quand même une logique mentale qui est loin d'être oh bah je m'en fous, je me pose et j'y vais, je travaille. Il faut essayer de se dire, il faut essayer de prévoir ses rendez-vous, d'essayer d'avoir de la connexion, que tout le monde nous entende, d'être préparé, d'avoir la gymnastique mentale, de pouvoir se mettre dans les dossiers n'importe où et n'importe quand. Ça, moi, ça va, c'est quelque chose qui est assez facile parce que je vis dans mes projets, donc je les ai bien en tête. Mais voilà, c'est pas si simple que ça en a l'air. C'est pas un rythme qui peut plaire à tout le monde. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit un rythme qui me plaise parce que je pense que mon besoin de confort, d'organisation et de logistique est beaucoup moins coûteux quand il est routinier parce que je fixe ma manière de faire une bonne fois pour toutes et je suis capable de le répéter. Donc, moi, c'est comme ça que je trouve ma liberté. Je trouve ma liberté dans la contrainte de la routine. Donc, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, c'est ce que je commence à me rendre compte. C'est en m'imposant des règles et une routine que mon cerveau peut être libéré de contraintes externes et de facilité de vie. Et de cette manière, j'ai plus le sentiment de pouvoir faire ce que je veux dans le cadre que j'ai défini. Donc c'est bon, là je fais un petit traité philosophique à mon niveau exécrablement philo sur la liberté. Mais voilà, je trouve que dans tous les cas, dans la liberté, il y a un espèce de contre-coup logistique. En tout cas, quand on veut vivre la liberté dans la demi-mesure, comme c'est plutôt mon style, et bah oui, si on veut un bon hôtel, si on veut être dans de bonnes conditions pour passer tel visio, si on veut préparer tel rendez-vous, etc., en fait, cette liberté amène beaucoup plus de contraintes, en tout cas dans la manière dont je le vis aujourd'hui. Hein, peut-être que les digital nomades qui font ça depuis des années me diront autre chose, mais voilà, moi ça me donne quand même envie tout ça de retrouver une routine et aussi bizarre que ça puisse paraître d'avoir l'opportunité de faire un peu plus ce que je veux, bah ça me donne surtout envie de me remettre dans un cadre que j'ai eu la liberté de définir Et donc ça renvoie plutôt à une notion de la liberté qui est qu'on s'enferme dans la cage qu'on a décidée, qu'on a choisie, et pas qu'on vit à l'air libre. Je trouve que c'est la manière la plus proche d'exprimer de comment je conçois la liberté. C'est de pouvoir choisir ses contraintes et choisir sa propre cage. Voilà, je ne sais pas si vous serez d'accord. En tout cas, je suis ravi de savoir que si je lance un podcast en freestyle, j'arrive à faire de la philo sur de la liberté. Tant mieux. Ça veut dire que je suis capable de meubler une formation ou un cours, en tout cas. Mais voilà, premier sujet. J'embrasse la vie un petit peu de bouger à droite à gauche. Et je suis pas sûr que ça m'aille bien, surtout sur le côté logistique. Le contre-argument de tout ça, c'est de se dire que peut-être qu'il est plus simple de ne pas voyager semaine par semaine, ce que je fais un petit peu en ce moment, mais plutôt de bouger mois par mois et d'avoir le temps d'instaurer et de se retrouver une routine. Parce que là, ce qui est compliqué, c'est que j'ai beaucoup bougé, c'est-à-dire que tous les 3-4 jours, un train, un avion, un voiture, un déplacement, et en fait, voilà. Aussi simple que ça puisse être, et bah, ça engage de la logistique sur bah, je prends quel vêtement, il faut que je prenne du temps pour les laver, j'ai oublié ma brosse à dents, j'ai oublié ma trousse à droite à gauche, où est-ce que je vais dormir, etc. Et ça, c'est le rythme que je vis depuis pas mal de mois maintenant. Et là, je vais avoir un mois d'avril marqué franchement par ça. Et ouais, bouger tous les 3-4 jours, c'est compliqué. Donc voilà, le contre-argument, c'est peut-être que les digital nomades qui m'écouteront diront, mais t'es fou, ça sert à rien de bouger tous les 3-4 jours, c'est trop compliqué. Et que eux font plutôt, ils restent des mois dans des endroits ou au moins des semaines. Mais voilà, pour arrondir et atténuer un petit peu le propos, peut-être que voilà, il faut quand même se rendre compte de la logistique que c'est. Et il faut peut-être trouver son style, et peut-être que être digital nomade, c'est pas bouger tous les 3-4 jours, c'est plutôt, enfin, ou même une semaine, hein, c'est court, c'est plutôt faire des longues périodes à droite, à gauche, ça me semble peut-être un peu plus adapté. Voilà pour mon partage sur ce sujet un petit peu globe-trotteur, même si évidemment c'est incroyable de se dire que je peux adopter ce train de vie, et que c'est allé très très vite, hein. Là, les 4 mois qui se sont passés, j'ai rien vu passer. En faisant, je peux faire le bilan en tout cas sur mon développement personnel, et je trouve que bah, en fait je suis fier de moi parce que beaucoup de choses ont avancé, et je me rends compte maintenant que j'ai réussi à faire quelque chose de très difficile, qui est que je crois que j'ai trouvé mon équilibre. Voilà, on rentre dans la deuxième partie, le deuxième chapitre. Il me semble que j'arrive de plus en plus à me gérer sur ma manière de travailler, mes besoins et mes objectifs pro, mes besoins et mes objectifs perso, et que j'ai des problématiques perso sur lesquelles j'arrive à avoir des pistes, à savoir comment je fonctionne. Et pour le pro, j'arrive de plus en plus à gérer mon stress. Et j'en suis satisfait. Je pense vous avoir donné toutes les cartes que j'utilise pour gérer mon stress. Je peux faire un petit retour là, 4 mois après mon épisode 1 de la saison 4, épisode 0 de la saison 4 surtout, qui est que ce qui me reste là comme règle, on va dire, si je peux donner vraiment les règles qui sont les plus intéressantes, et que, en fait, je sais plus lesquelles exactement j'ai données, mais surtout. Moi, ce que j'ai en tête, c'est que j'ai réussi à mettre le stress, mon stress et mon bien-être personnel, à la même hauteur, voire au-dessus d'autres variables quand je prends une décision. C'est-à-dire, avant, donc là, encore une fois, c'est très personnel, mais vous l'aurez compris, c'est un podcast un peu plus introspectif que d'habitude. Là où il y a 6 mois, ou il y a 1 an, j'aurais pu dire, il faut faire ce projet, je fais ce truc-là. Je m'en fous si je suis fatigué, je m'en fous si je suis stressé, je le fais de cette manière, de manière le plus parfaite possible, etc. Et bah aujourd'hui, le sujet de mon stress et de ma fatigue vient dans une grande mesure impacter la prise de décision. Et dès que je vais dire, non, aujourd'hui je suis fatigué, je vais pas le faire, ça me stresse, donc je vais le faire autrement, ou alors je vais me mettre dans de meilleures conditions. En fait, j'ai des règles beaucoup plus flexibles sur ma gestion de moi-même, c'est ce que je me rends compte. Là où il y a un peu plus d'un an, je pouvais dire je travaille mieux le matin, donc tous les matins je vais travailler, faire les tâches les plus importantes, intéressantes. Et bah non, en fait, parce que bah en fait, y a beaucoup de conditions qui mènent à ce que la décision soit plus fine. Par exemple, si j'ai moins bien dormi, bah me forcer à travailler le matin, ça va juste me fatiguer, je vais pas être plus performant. Si travailler le matin, ça m'amène à ne plus avoir le temps parce que j'ai des rendez-vous mal placés pour faire du sport, et bah vaut mieux plutôt travailler après le sport. Vaut mieux privilégier le sport et faire et travailler après le sport, même si c'est l'après-midi, parce que j'ai ce shoot de concentration et de clarté d'esprit. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et j'ai l'impression que j'arrive à trouver du développement personnel, du bien-être dans plutôt un chaos de règles plutôt que des règles strictes. Et ça m'amène à être beaucoup plus, je le sens, en meilleure santé mentale. Je suis content parce que l'année dernière, j'aurais dit plus productif. Et voilà, maintenant, je réfléchis plus à ma santé mentale et à la productivité plutôt que juste la productivité. Sachant que je trouve pas que ça nuise à la qualité de ce que je fais. En revanche, et ça je vous l'ai déjà transmis, il faut savoir accepter que si on a la liberté de s'écouter, alors il faut se dissocier des cadres classiques. Parce que si on est capable de se dire aujourd'hui, on est lundi et de 9 à 10, j'arrive pas à travailler, donc je vais, je sais pas, faire du sport ou faire une grasse mat, et ben, il faut être autant prêt à se dire ça que se dire on est dimanche. Entre 16 et 18, et là j'ai super envie de travailler, donc je travaille. Je pense que il faut pas prendre l'un sans l'autre, c'est-à-dire que il faut pas travailler les week-ends. Enfin, en tout cas, dans la tangente que je suis en train de prendre, je trouve que c'est dangereux de se dire je travaille les week-ends et pas si je travaille les week-ends j'ai le droit de pas travailler un moment dans la semaine. Et à l'inverse, c'est compliqué de se dire j'ai pas envie de travailler cet après-midi, mais je travaille pas non plus les week-ends. Je trouve que ce sont deux règles qu'il faut prendre en même temps et pas indépendamment. Si je suis capable de faire des heures sup, alors je suis capable de faire des heures sous. Mais du coup, par contre, on peut se dire je ne travaille pas les week-ends. Mais donc, ça veut peut-être dire qu'il faut prendre une règle équivalente. Donc, c'est comme ça que je le vois. Aujourd'hui sur ce sujet. Donc voilà, équilibre beaucoup plus adapté à moi qui a l'air de fonctionner. J'ai eu un moment de fatigue ces derniers temps qui a été rattrapé sans faire de grandes vacances. Et là, je sens que au lieu de faire d'être à 100% tout le temps et de devoir faire une pause et puis de revenir fatigué, je suis dans une espèce de moyenne haute de concentration et de productivité qui fait que je peux prendre moins de vacances, mais voilà, parce que je suis capable de prendre une après-midi un mercredi et de rattraper dans ma tête cet après-midi un week-end, sachant que j'arrive enfin à ne plus compter mes heures et à faire par tâche qu'est-ce que je dois faire, pour quand je dois le faire et à peu près combien de temps ça va me demander et comment j'organise mon temps pour aller dans la deadline et suivre mon état mental du moment. Je me suis poussé à mettre une deadline, par exemple, pour mon article que j'ai envoyé pour relecture et j'ai pas du tout assez avancé que ce que j'aimerais faire, mais j'ai envoyé parce que c'était la deadline et je vais rattraper d'une autre manière. Et voilà, j'ai pu adapter de manière plus fluide là où je comprends enfin que à force d'être toujours à fond, on peut craquer et que la manière d'être à fond, c'est pas d'être à 100% et d'alterner avec du zéro, c'est plutôt d'essayer de maintenir du 80% stable en ayant une vie à côté, en faisant des choses et limite, j'allais dire limite pas prendre de vacances. Donc je sais que c'est peut-être quelque chose qui va faire grincer les dents à certains des auditeurs, mais en tout cas c'est comme ça que je le vis. Si j'arrive à apprécier ma vie, à prendre des pauses quand je le sens, à faire, par exemple, si j'ai un concert en semaine, à y aller, à faire la grasse mat le lendemain, mais à compenser le week-end, ou à travailler tard jusqu'à 22h, 23h, à faire une pause quand je suis fatigué, à faire un week-end de 3 jours si j'en ai envie, les vacances, c'est tous les jours. Je vois pas en quoi je devrais me forcer, en tout cas. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des vacances, mais se forcer à prendre des vacances. Quand j'ai la chance d'avoir un train de vie précis sur où j'en suis, ce que je veux et ce dont j'ai besoin, eh ben, je trouve que c'est moins utile. Voilà. Donc, conseil, ne prenez pas de vacances. Non, pas du tout. Mais en tout cas, relou, j'en suis sur ce sujet. Je ressens moins le besoin de vacances et je m'imagine bah, plus ce que j'ai fait, une espèce de retraite où je me dis, ah là, j'ai le temps de travailler sur un projet. Par exemple, aujourd'hui, si je m'imagine partir en vacances, je me vois partir 2 semaines dans un endroit sympa et de me dire, je travaille sur mon article. Donc, je ne travaillerai pas de 8h à 17h. Mais ça m'intéresse quand même de pouvoir avancer sur des projets et je pense que je le vivrai quand même sur des vacances. Donc les vacances, c'est peut-être savoir se décharger, savoir faire une tâche qu'on aime. Mais vu que voilà, mon travail est beaucoup plus fluide, ça peut être, mes vacances peuvent être plus dans m'alléger ou me libérer du temps pour une tâche précise, par exemple écrire un article et n'avoir que ça à faire plutôt que rien faire parce que j'arrive à trouver du temps pour faire tout ce que j'aurais aimé faire avant, quand j'attendais les vacances, vu que j'arrive à faire du sport, à voir des amis, à sortir, à voyager. Voilà comment je le vois un peu plus sur ce thème-là. J'ai noté un autre thème, je ne vais peut-être pas tout vous balancer, mais je trouve que faire un petit point sur le développement personnel, c'est important. Donc là, c'est vraiment un petit check-up pour ceux qui suivent non pas l'entrepreneur, mais plutôt Alexandre. Je vais vous faire juste un petit point sur la suite. Comment je vois les choses, qu'est-ce qui se passe. Malheureusement, il y a des choses que je ne peux pas dire. Ça m'embête parce que je voulais être libéré sur ce que je transmettais, mais en fait, c'est pas possible quand on commence à travailler avec des gens. Je suis en train de prévoir ma transition entre. L'entrepreneur et entre le thésard qui finance sa thèse et l'entrepreneur. Je porte beaucoup de réflexions sur la suite, sur la structure de la suite, sur la mission de ce que je vais pouvoir faire. Et donc, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un revirement. Je pense que 2026 va être une année importante et que je suis en train de m'organiser pour vraiment passer une étape. Au-dessus, pas juste être un petit freelance qui finance sa thèse, mais monter quelque chose de plus sérieux. Je le prends de mieux en mieux, parce que c'est difficile de se voir comme un entrepreneur, c'est difficile de se dire qu'on va monter un truc, de monter un projet, de vraiment prendre les choses en main et de pas se laisser, alors que ça fait que quelques mois que je gagne de l'argent, de pas se laisser à un petit rythme de croisière. Mais je crois qu'il y a une petite flamme qui brûle en moi de vouloir développer des choses, de vouloir grandir et créer quelque chose d'intéressant dans la recherche. Et que je vais plutôt écouter cette flamme. Et vu que je me sens plutôt dans le chemin de savoir et avancer et travailler et prendre soin de moi, j'ai moins peur de me lancer dans des projets comme ça. Et je pense qu'il y a un petit effet escalade d'engagement, c'est-à-dire que plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Dans l'entrepreneuriat et donc on va monter d'un cran et en ce moment en tout cas ça ne me fait pas forcément peur aussi parce que je suis accompagné et que c'est très plaisant d'ailleurs je sais pas si j'avais prévu d'en faire un sujet pour un podcast futur mais c'est une anecdote au passage. C'est pas si dur de déléguer. Je sais que j'ai transmis un peu cette idée que j'avais peur. Ensuite, j'ai commencé à vous dire que je commençais à m'imaginer comme leader et comme étant capable de transmettre et de donner envie aux gens de travailler avec moi. En fait, je pensais que ce serait dur de déléguer. Et en fait, ça n'allait pas tant que ça. J'ai pas grand-chose à vous apporter hein, sur ce thème-là. À part que, comme d'habitude, on ne sait pas vraiment comment sont les choses tant qu'on n'a pas testé. Et déléguer, c'est aussi pareil. Et je suis assez content de me dire que j'ai pu m'engager dans des dispositifs où je déléguais assez rapidement, finalement, dans ma croissance, dans ce que je suis en train de développer. Parce que je trouve que c'est une barrière qu'il faut enlever rapidement. Et c'est vraiment pas si dur. Peut-être que c'est parce que ça se passe bien. Mais en fait, c'est plus simple de lâcher prise, une fois surtout qu'on a compris à quel point c'était nécessaire. Et moi, quand je suis un peu plus la tête dans ma thèse et que je me rends compte que j'aimerais passer des étapes supérieures sur le développement de mon activité, eh ben, je me dis, non, mais là, c'est plus possible, je ne peux pas le faire tout seul. Et je pense quand l'évidence s'impose, l'évidence de se dire, je ne peux pas le faire tout seul, déléguer, ça devient un peu plus simple. Donc peut-être que ce qui peut être transmis, c'est de bien se rendre compte et de bien faire le point. Pas déléguer pour déléguer parce qu'on se dit ça ira plus vite, mais de bien faire le point. Quelles sont mes ambitions? Qu'est-ce que je suis capable de faire sans faire de burn-out? Et est-ce que j'ai une capacité d'investissement ou des solutions pour être accompagné? Et sur quoi précisément ces personnes pourraient m'accompagner? Et je pense que j'ai été assez clair sur ce dont j'avais besoin, avec moi-même d'abord et avec les autres ensuite, pour être vachement libéré sur ça. Donc voilà, c'est un petit peu plus simple. Donc je ne travaille plus vraiment tout seul. Voilà, je suis toujours entrepreneur individuel, donc j'ai toujours ma structure, mais je suis accompagné et aidé de différentes manières. Et je vous remercie si vous m'écoutez et que vous vous reconnaîtrez. Ça se passe toujours bien, ça me fait toujours beaucoup de bien, ça me permet d'être plus libéré et aligné avec la charge mentale que je suis capable d'avoir et mes besoins et ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et voilà, donc je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Malheureusement, je vais peut-être pas pouvoir vous dire quand les choses avancent, mais qu'il y aura juste un effet d'annonce, genre c'est bon, j'ai tout développé, voilà à quoi la suite va ressembler. Pour le coup, je vais peut-être pas pouvoir build in public sur ce sujet-là, même si je ferai au mieux pour vous transmettre comment ça se passe et ce qui se passe au moment où ça se passe. Voilà, très belle phrase. Le seul point noir dans tout ça, sur le futur développement de ce que je fais, c'est que sincèrement, j'ai du mal avec les réseaux. Je pense qu'il faut que je commence à enregistrer en vidéo mon podcast. Vous savez que j'ai déjà essayé. J'ai du mal avec mon image. Et puis même sur LinkedIn, je me perds. J'ai fait un post sur ce sujet il y a quelques semaines. J'ai essayé d'automatiser, de semi-automatiser des posts en passant par mes podcasts. Mais en fait, là, je commence à avoir un gros problème sur le fait de parler de moi et juste d'avoir à chaque fois des posts du moi je, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai pensé ça. En plus, ça marche moins bien et je le comprends. Les posts qui marchent bien, c'est les gros effets d'annonce, genre moi j'ai gagné ça ou moi j'ai fait ça. Mais toutes les semaines, en fait, parler de moi, ça m'énerve, je m'énerve moi-même. Donc je suis un peu perdu, donc j'ai re-arrêté les posts, donc je suis vraiment pas le meilleur sur ça. Ça demande du temps, je vais peut-être reprendre ce temps-là, mais étant donné que je suis dans une phase de reconstruction, potentiellement de renouvellement de communication, bah, je suis un peu perdu sur ce que je fais sur LinkedIn, j'avoue. Ce podcast, j'en suis toujours très satisfait. Vous pouvez vous dire que vous écoutez un produit que je suis content de faire. Je trouve que la saison 4 est vraiment très bien par rapport à ce que j'aurais aimé faire. Et donc pour l'instant, on va continuer. Je prévois pas de saison 5. J'ai le sentiment d'être toujours sur un élan qui se ressemble. Et comme je l'ai dit, je finirai les saisons quand j'aurai l'impression que les saisons seront finies. Et pour l'instant, je me sens toujours dans la saison 4. Peut-être que la saison 5 viendra avec l'annonce et cette prochaine étape qui va arriver prochainement. Mais pour l'instant, je me sens toujours dans ce sens-là. Et sur les réseaux, bah, j'ai plus envie de parler de moi. Je le ferai parce qu'il faut le faire. Mais toutes les semaines, un truc, moi, j'ai pensé ça, j'ai fait ça, voici mon développement personnel. Je le fais déjà dans le podcast. Je suis content d'avoir trouvé mon style dans le podcast. Par contre, ouais, sur LinkedIn, j'ai pas envie. Et donc, je vais essayer plutôt d'apporter du contenu et potentiellement de la science, de réessayer et de trouver comment je peux faire. Il y en a qui y arrivent. Les infographies, ça marche bien sur LinkedIn, par exemple. Une grande image qui explique plein de trucs. Moi, je sais toujours pas transmettre de la science, mais sincèrement, j'ai envie de le faire. J'ai envie d'apporter du contenu et pas juste faire du développement personnel et parler de moi. Donc voilà, pour ceux qui me suivent aussi sur LinkedIn, bah, sachez que je suis pas forcément satisfait des derniers posts et que je réfléchis. Mais on est dans une phase de transition, de réflexion, de choix stratégiques où je pense que ma communication viendra avec les décisions que j'aurai prises sur la suite de mes aventures. Donc La suite répondra à ces réponses. Et je vais m'arrêter là pour cet épisode de transition. Pour une fois, le titre n'est pas clair dans ma tête avant de rédiger, parce qu'il y a trois sujets. Écoutez, je vais voir. Mais j'ai au moins pu dire ce que j'avais sur le cœur, sans me fixer un objectif, un sujet, et forcément quelque chose à vous apporter. J'espère que cet épisode a quand même été intéressant à écouter. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.